Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord dans le Club des Idées la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec vous, Philippe Besson, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Écrivain, scénariste, auteur à succès, tout le monde vous connaît. Et c'est un coup de griffe que vous nous proposez ce soir. Le gouvernement annonce 2 milliards d'euros pour la culture. Est-ce que ça vous réjouit?
Ah mais je saute au plafond, vous voulez dire. Surtout après le printemps cataclysmique et l'été meurtrier vécu par les artistes et les créateurs. D'ailleurs, elle nous a été martelée, hein, cette somme, vous avez remarqué, comme si le gouvernement voulait qu'on ait bien conscience de cette largesse et qu'on le remercie, qu'on fasse la révérence. Et c'est là, Julien, pour tout vous dire, que j'ai commencé à tiquer
et à me
souvenir que le plan global se chiffre à 100 milliards. 100 milliards probablement trouvés sous le sabot d'un cheval, d'ailleurs, puisque pendant des années, on nous a expliqué que les caisses étaient vides. Donc, au fond, la culture ne représente que 2% du total. Et elle percevra 15 fois moins que l'écologie ou 10 fois moins que les entreprises à qui on a refilé 20 milliards de baisses d'impôts sans leur demander la moindre contrepartie. Alors que la culture, c'est 7 fois l'industrie automobile, ne cesse de nous rappeler Roselyne Bachelot. Du coup, on saute un peu moins au plafond.
Et c'est un homme de culture ce soir qui nous le dit. Alors au moins quand le Premier ministre invite les Français à retourner au cinéma, au théâtre, dans les salles de spectacle, ça vous réjouit ça?
Il s'agit surtout d'un sacré retournement de situation, puisque depuis les mois de mai et juin, nous pouvions nous précipiter dans les magasins, nous agglutiner dans les trains, nous coller les uns aux autres dans les avions. Mais en revanche, le théâtre et l'opéra nous étaient absolument interdits. Nous étions privés de festivals, privés de concerts et on ne sortait pratiquement pas de films au cinéma. En somme, nous étions invités à consommer, mais surtout pas à nous cultiver. Voilà au moins une aberration de réparer.
En fait, vous êtes colère ce soir, Philippe.
Un peu, vous avez remarqué, oui.
Bon, et vous avez raison d'être en colère ?
Écoutez, on pourrait dire que je suis ingrat, puisque notre pays peut s'enorgueillir d'avoir une politique culturelle ambitieuse. Regardez, depuis 2007, on a déjà eu 8 ministres de la Culture. 8, c'est dire l'importance qu'on accorde à cette fonction. Et notre pays a également une tradition admirable. C'est celle de lancer des grands travaux qui ont le mérite d'associer création de beauté et création d'emploi. Pourtant, j'en ai pas vu la queue d'un seul dans le fameux plan de relance.
Bon, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La restauration de Notre-Dame, par exemple. Ça n'est pas rien, ça, quand même, Philippe Besson.
Ah, la restauration. Alors, vous savez que sur le plan historique, ça correspond au retour de la monarchie. Sur le plan sémantique, ça peut signifier reproduction à l'identique. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui nous attend avec la flèche de Viollet-le-Duc. Nous aurons droit à un copier-coller. Alors, on avait pourtant évoqué la possibilité d'un geste architectural contemporain. Du coup, on s'était pris à rêver d'une toiture vitrée, d'un jardin en plein ciel, d'une nouvelle flèche en verre. On pensait bêtement qu'un concours international serait lancé, que les meilleurs architectes du monde rivaliseraient d'imagination, que des projets incroyablement originaux nous seraient proposés, et qu'on n'aurait que l'embarras du choix. Mais non, pas de concours, pas d'imagination, fini de rêver, les dés ont été jetés, nous aurons droit à une imitation, une copie, une singerie.
Donc le coup de griffe de Philippe Besson ce soir, c'est merci, mais vous la jouez un peu petit bras pour la culture.
Exactement. Mais en vérité, Julien, c'est pas seulement une question de moyens. Je crois que c'est aussi, et peut-être même d'abord, une question d'état d'esprit. Par le passé, nous avons su faire preuve d'audace, d'inventivité, de capacité de transgression, et les décideurs ont su résister aux protestations en tout genre. C'est plus le cas. Quand on a imaginé la Tour Eiffel, certains ont expliqué qu'elle allait défigurer Paris. Ils évoquaient une tour vertigineusement ridicule, une noire cheminée d'usine, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. On l'a construite. Hein. Quand Georges Pompidou a décidé de créer au cœur de Paris un centre national d'art moderne et opté pour un bâtiment multicolore, doté de canalisations, d'escaliers électriques, de passerelles métalliques, on a moqué un hangar, une raffinerie de pétrole, une verrue d'avant-garde. Il s'est imposé. Lorsque Peille a dévoilé son projet de pyramide du Louvre, les conservateurs de tout poil se sont aussitôt déchaînés. Degré zéro de l'architecture, gadget. L'académicien Jean Dutour a même lancé un appel à l'insurrection, hein, comme si la patrie était en danger. On a comparé l'édifice à une maison des morts sortie de Disneyland. On nous l'envie désormais.
Et qui reviendrait dessus aujourd'hui?
Personne. Parce que hier, au fond, nous avions des bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons des conservateurs. Hier, nous avions des visionnaires. Aujourd'hui, on a des gestionnaires à la petite semaine. Vous savez quoi, Julien? Comme dirait l'autre, j'ai mal à ma France.
Merci Philippe pour ce billet d'humeur et ce coup de griffe. Philippe Besson, qui est avoué, j'en ai perdu ma voix. Philippe Besson qui est avec nous dans le Club des Idées, tous les lundis désormais à partir
absolument,
de 19h15.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on poursuit dans quelques secondes avec le débat du Club des Idées. Faut-il se convertir à la semaine de 4 jours? Le débat, vous allez voir, est relancé en Europe. Alors pourquoi pas en France? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on est toujours en direct dans Europe Soir avec le grand débat du Club des Idées maintenant. Et ce soir, on s'intéresse au temps de travail. Faudra-t-il demain travailler plus pour relancer la France, comme nous dit le MEDEF? Et cela alors que le chômage pourrait exploser? Ou alors, faut-il au contraire travailler moins pour mieux partager le travail? Et la semaine de 4 jours est peut-être la solution, comme le proposent certains. Le débat fait rage, par exemple, chez nos voisins allemands. Des ministres y seraient même favorables. En France, vous allez voir que des entreprises tentent l'expérience. Alors, pour ou contre la semaine de 4 jours? On en parle ce soir avec nos invités. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir. On en parle également avec Éric Vérague, entrepreneur, essayiste et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres.
Bonsoir.
Avec Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Et on en parle également par téléphone avec Laurent de la Clergerie. Vous êtes président de LDLC, c'est une société de vente en ligne d'équipements informatiques qui a décidé justement d'instaurer cette semaine de 4 jours. Ce sera, je crois, l'an prochain, en 2021, c'est cela ?
Bonsoir, tout à fait. C'est un projet qu'on a mis en route et qui devrait être initié dans l'entreprise en janvier 2021.
Combien de salariés seront concernés par cette mesure, monsieur ?
800 salariés seront concernés par la mesure.
800 salariés qui vont donc demain passer de 5 semaines, de 5 jours, le lapsus, pardonnez-moi, à 4 jours par semaine.
C'est ça, passer de 5 jours à 4 jours par semaine, payés comme s'ils travaillaient 5 jours, soit 35 heures.
Alors, il paraît que l'idée vous est venue d'un reportage que vous avez vu sur Microsoft il y a quelques années et qui avait expérimenté cette semaine de 4 jours pendant un mois. C'est cela ? Racontez-nous.
En effet, Microsoft l'année dernière a tenté l'expérience en août au Japon et c'est ce qui a mis la graine dans ma tête. C'est pas le... qui m'a fait réfléchir à l'hypothèse des 4 jours.
Bien. Alors, on est allé avec François Coulon se promener un peu dans les allées de votre entreprise pour demander aux salariés eh bien, comment ils accueillaient la mesure. Voici un court extrait.
C'est un geste magnifique. Ça montre que ce n'est pas quelqu'un qui est porté vers l'argent pour lui-même et qui prend soin de ses collaborateurs.
On se donne à fond toute la semaine parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir profiter, être récompensé, entre guillemets. Pour nous, c'est du repos et donc avoir le sourire quand on vient travailler. Et là, je pense qu'honnêtement, j'aurai encore plus la pêche. Donc, ça peut que être positif.
Voilà, Laurent de la Clergerie, président de LDLC. On a entendu vos salariés, hein, puisque vous avez décidé, je le rappelle, d'instaurer la semaine de 4 jours à partir de l'an prochain, en 2021. Et vous dites, expliquez-nous ça, c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le salarié ?
Alors, le pari pour moi, c'est que ça amène plus de bien-être aux salariés et plus de repos. Parce que ce jour de repos, c'est un jour dans lequel ils vont soit pouvoir prendre du temps pour eux-mêmes, soit pouvoir faire ce qu'ils n'ont jamais le temps de faire et qui est reporté au week-end, ce qui fait que derrière, ils n'ont pas un vrai week-end.
Alors ça paraît logique, mais pour l'entrepreneur que vous êtes ?
Alors, l'entrepreneur que je suis, derrière, si on regarde les comptes, je vais perdre de l'argent parce que je vais devoir embaucher et que ça va me coûter plus cher pour le même travail. Dans la réalité, je pense qu'en fait, des salariés qui sont heureux vont transmettre ça à travers... On dit toujours, par exemple, qu'un sourire, ça s'entend au téléphone. Un client qui entend un sourire au téléphone, ce sera un client de gagné. Le pari que je fais, c'est que ces salariés heureux vont me ramener plus de clients et qu'à la fin, le cercle est vertueux et que je retrouverai la mise que j'ai mise au départ.
Bien, vous restez avec nous, monsieur. On va continuer d'en débattre avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail notamment. Question pour vous, Bernard Vivier. Quand on entend ce monsieur, ça paraît super. Tout le monde pourrait passer demain à la semaine de 4 jours, des salariés heureux, des patrons heureux et des salariés plus productifs.
Oui, alors ce à quoi il faut faire attention, c'est à deux choses. D'abord, la rémunération. Et là, ce chef d'entreprise vient de le dire. Je maintiens l'intégralité du salaire alors que le temps de travail va diminuer.
Oui. Bien.
Deuxième question que l'on se pose, que font les concurrents pendant ce temps-là ? Dans la durée, que va faire ce chef d'entreprise dans un marché national ou européen ou international ? Les marchés sont mondiaux, soumis à une pression très forte. C'est la question du coût du travail. Donc c'est la question de la productivité de son entreprise.
Vous avez précisément, Bernard Vivier, posé l'enjeu du débat. On en parle dans quelques secondes avec nos invités. Faut-il tous passer, pourquoi pas demain en France, à la semaine de 4 jours ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours en direct à 19h30 dans le grand débat du Club des idées. On parle ce soir du temps de travail. Faut-il passer à la semaine de 4 jours? On a entendu juste avant la pause cet entrepreneur français qui a plusieurs centaines de salariés qui a décidé, par souci d'efficacité, de productivité, de passer à partir de 2021 à la semaine de 4 jours. Et c'est vrai que le débat fait rage en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre notamment. On en parle donc avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, avec Sophie Binet, secrétaire générale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, et avec Éric Vérague, entrepreneur et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres. Alors Éric Vérague, oui. La semaine de 4 jours sur le papier, ça paraît très bien. Vous y êtes favorable ?
Non, alors moi je suis favorable à la liberté de négociation des entreprises.
Oui.
Je suis un partisan du dialogue social. Et je trouve très bien que chez LDLC, il y ait un patron qui se mette d'accord avec ses salariés pour passer aux 32 heures. Et je pense que c'est ce modèle-là qui doit être suivi.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le salarié est plus productif quand il travaille moins de jours dans la semaine ?
Ça n'a jamais été prouvé par personne.
Ah, c'est faux.
Il y a des tas d'études qui montrent tout et son contraire.
Alors
sur
moi,
le sujet.
J'ai vu l'exemple de Microsoft, qui l'a donc expérimenté en août 2019 avec les 2300 salariés de son département nippon. Résultat, la productivité, tenez-vous bien, a augmenté de 40%.
Non mais bien, attendez, il y a des cas d'entreprises. Après, il faut regarder dans le détail. Où ça existe, il y a des tas d'entreprises où la diminution du temps de travail ou le bonheur nuit à la productivité. Donc il faut arrêter.
Le bonheur nuit à la productivité ?
Ah, ça peut arriver, bien sûr. Et donc il faut arrêter d'expliquer qu'il y a un modèle d'entreprise qui doit être appliqué à tout le monde de façon aveugle et rigide.
Sophie Binet.
Moi, je note sans surprise que M. Vérague est d'accord avec son organisation, c'est-à-dire le MEDEF. Pour ce qui est de la réduction
vous complimentez le MEDEF en pensant que j'en suis
allez-y,
membre.
Sophie
pour
Binet.
Ce qui est de la réduction du temps de travail, les chiffres montrent que la productivité horaire est d'autant plus importante que le temps de travail est faible. Et surtout, je pense qu'il faut arrêter de penser en ayant en tête le simple coût du travail.
Oui.
Dans ces cas-là, alignons-nous sur le Bangladesh.
Mais
et la France sera la plus compétitive du monde.
Le débat, ce n'est pas juste réduire le temps de travail, c'est travailler 4 jours dans la semaine. Donc on peut aussi se dire qu'on va travailler 40 heures dans la semaine et qu'on va faire rentrer tout ça en 4 jours. C'est le débat en Nouvelle-Zélande, c'est le débat en Grande-Bretagne. C'est pas forcément travailler moins, c'est travailler moins de jours.
Pour nous, le débat, c'est travailler moins et après avoir la liberté de et payer autant évidemment et après avoir la liberté de l'organiser de la façon qui arrange le mieux les entreprises et les salariés parce que c'est bien évidemment pas la même chose quand on est une usine qui est obligée de tourner 7 jours sur 7 de quand on travaille dans le tertiaire pour les cadres où on peut tout à fait organiser la semaine en 4 jours et limiter les temps de transport.
Alors Bernard Vivier, question simple, est-ce que parce que c'est l'essence de cette philosophie de la semaine de 4 jours, travailler moins permet de mieux partager le travail. Est-ce que ça peut être un remède au chômage de masse ?
Non, pas fondamentalement. Ce n'est pas parce qu'on va partager le travail qu'on va dégager à due proportion des emplois nouveaux. On a toujours et depuis longtemps eu cette idée que si chacun travaille un peu moins, on va dégager un nombre d'heures de travail qui vont permettre des embauches. C'est beaucoup plus compliqué et on le voit, la réforme sur la réduction du temps de travail, loi de Robien en 1996, puis ensuite Jospin 1998,
heures,
2000, voilà, les 35 heures, ont permis de maintenir, de créer un peu d'emplois, mais pas de faire cette vague heureuse, révolutionnaire qu'on voudrait. Qu'est-ce qui crée de l'emploi, finalement ?
On parle quand même de 300 à 400 000 créations
oui,
d'emplois, selon
le maximum. Créé ou maintenu ?
Mais ça, c'est vrai que ça n'a pas résorbé le chômage
non,
de...
Non, ça n'a pas résorbé le chômage.
Le plein emploi.
Maintenant, le temps de travail doit diminuer. Il diminue, si je peux me permettre.
Oui.
Napoléon Ier, on travaillait, c'est une estimation, on travaillait à peu près la moitié du temps de la vie éveillée. On vivait peu longtemps... On travaillait à la ferme pour l'essentiel et on travaillait la moitié de son temps de la vie éveillée. Sous Macron Ier, si je peux m'exprimer ainsi, nous travaillons à peu près 10 à 12% du temps de la vie éveillée.
Oui.
Et c'est un progrès,
donc,
ce qui veut dire que...
Moins.
Mais bien sûr, si on a mis la semaine de 40 heures dans la loi en 1936, on ne l'a réalisée dans les faits qu'en 1982. Aujourd'hui, l'horaire légal de travail, c'est 35 heures. L'horaire réel effectif des salariés à temps plein, c'est 39 heures.
Oui.
Donc, la productivité va permettre de dégager des moyens qui nous permettront de travailler moins, tout en ayant davantage de revenus.
Alors, je voudrais poser la question à Laurent de la Clergerie, président de LDLC, cette société de vente en ligne d'équipements informatiques, qui a donc décidé d'instaurer cette semaine de 4 jours. D'abord, quelle réaction à ce que vous avez entendu en plateau ? Et est-ce que vous avez prévu justement d'embaucher et de créer des emplois ?
Alors, on a prévu, j'ai fait le calcul en gros, on perd 3 heures de travail. ce qui représente à peu près 10%, et on va embaucher 4%. Donc effectivement, ça ne remplace pas l'intégralité des heures. Alors moi, je différencierais les mots productivité et efficacité, dû à ce que je considère qu'il va y avoir plus d'efficacité des salariés qui auront eu un jour de repos. Et les 4 jours, c'est pour moi très important, parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'un jour de repos et pas de 32 heures. Parce que sans ce jour de repos, je pense que je n'aurais pas la même efficacité derrière.
Bien. Sophie Binet, sur la productivité d'un salarié qui travaille un peu moins. Est-ce que ça, pour revenir sur ma question première, c'est avéré? Je parlais de l'exemple de Microsoft tout à l'heure. En Allemagne, par exemple, en 1994, parce que ça fait aussi débat en Allemagne, cette histoire de la semaine de 4 jours, ça a été proposé par le grand syndicat de la métallurgie, le premier syndicat d'Europe, IG Metall. Et il y a certains ministres du gouvernement d'Union nationale d'Angela Merkel qui ont dit, eh bien, pourquoi pas, banco, si vous voulez tester, on peut. Eh bien, en Allemagne, en 1994, pour sauver 30 000 postes, Volkswagen avait fait passer 50 000 employés de 36 heures à 28 heures en baissant leur salaire, par contre, de 10%. Et ça a marché. Ils ont sauvé l'entreprise, ils ont sauvé les emplois, Sophie Binet.
Oui, moi je confirme. Il y a un exemple aussi très récent en Allemagne sur la précédente crise où patronat et syndicats se sont mis d'accord sur la semaine des 28 heures, ce qui a permis de passer la crise. Moi, ce que je note comme point positif, c'est qu'a priori, on est tous d'accord sur le fait que les 35 heures ont permis de créer 400 000 emplois. Vous crachez dans la soupe en disant « non mais 400 000 emplois, c'est presque rien ». Juste un ordre de grandeur. Là, on a un plan de relance à 100 milliards d'euros, oui, 100 milliards d'euros, et on nous dit qu'on va créer derrière 160 000 emplois. Donc, on voit que d'un côté, avec 100 milliards d'euros, ce qui est une somme colossale, on n'a jamais eu un plan de relance de cette ampleur, on crée 3 fois moins d'emplois qu'avec les 35 heures. Donc, le fait que la réduction du temps de travail crée des emplois, c'est indéniable. Et de l'autre côté, ce qu'on sait aussi, c'est que l'augmentation du temps de travail supprime des emplois, puisque nous avons le bilan de la déréglementation des heures supplémentaires engagées sous Nicolas Sarkozy, qui a supprimé entre 50 et 100 000 emplois. Alors, donc ça, on le sait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que d'un côté, il y a des salariés qui travaillent trop, qui travaillent en moyenne 39h30 par semaine. Pour les cadres, c'est 44h30 par semaine. Oui. Et de l'autre côté, des salariés qui ne travaillent pas assez.
D'ailleurs, le temps de travail maintenant est revenu au niveau de l'Allemagne. On a longtemps dit que les Français travaillaient moins que les autres. Ça n'est plus tout à
c'est
fait
faux.
Vrai, Bernard Vivier. Je parle sous votre contrôle.
C'est exact.
Bien. Éric Vérague, vous êtes entrepreneur. Vous êtes ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres. Mmh. Est-ce qu'il n'y aurait pas sens, pour renforcer la productivité de la machine française et de la compétitivité française, à faire travailler les cadres, par exemple, simplement 4 jours par semaine? Je vous pose la question parce que je me suis amusé à regarder une étude sur ces salariés qui procrastinent au travail. Mmh. Savez-vous combien d'heures sont perdues chaque semaine au travail à ne rien faire?
À mon avis, au moins une dizaine. Ça doit être dans ces eaux-là.
Entre 5 et 10 heures par salarié.
Oui, je ne suis pas étonné, oui, bien sûr.
Donc, si on ramasse le temps de travail de la semaine sur 4 jours, est-ce que vous ne pensez pas qu'on gagnerait en productivité?
Non, mais l'illusion, c'est de croire que de l'extérieur, on va pouvoir expliquer comment une entreprise est efficace. Une entreprise, c'est dirigée par un patron, par des cadres, qui ont leurs problèmes d'organisation, leurs choix d'organisation, qui ne sera jamais unique ni uniforme. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir si, dans une situation de crise, on veut renforcer la difficulté du métier de patron en imposant de nouvelles règles, ou si on dit aux gens organisés. Car ce qu'on oublie de dire, par exemple, sur
donc
les 35 heures...
Donc vous dites laisser la place à la négo d'entreprise.
Oui, bien sûr, comme en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ce qu'on oublie de dire, ce qui m'amuse, c'est les oublis systématiques. En Allemagne, l'État ne se mêle jamais de la négociation sociale, c'est un principe constitutionnel.
Il a fixé un salaire minimum.
En France, on a une revendication pour dire c'est l'État qui doit. Voilà, il a fixé récemment un salaire minimum.
Ah oui.
Deuxième point, ce qu'on oublie de dire sur les 35 heures, 400 000 emplois ou pas, c'est pas le sujet, c'est que ce sont des emplois encore aujourd'hui subventionnés massivement. C'est-à-dire que le manque à gagner en réduction de charges pour rendre la mesure supportable économiquement,
ça a coûté beaucoup moins cher que le plan de relance.
Elle représente environ 50 000 euros par emploi créé.
Oui. Bah là,
et c'est
là, on
ce
est à
qui a durablement appauvri la sécurité sociale, qui est déficitaire aujourd'hui à cause des 35 heures.
Éric Vérague, on continue d'en parler dans quelques secondes avec nos invités, les bienfaits de la semaine de 4 jours ou au contraire, ce que ça pourrait engendrer pour l'économie française. On en parle aussi avec Bernard Vivier. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit avec le grand débat du Club des Idées à 19h41 en direct dans le studio d'Europe Soir. On parle ce soir du temps de travail des Français. Faudra-t-il demain travailler plus ou au contraire travailler moins? Et on évoque cette question qui fait débat partout en Europe de la semaine de 4 jours. Et si c'était la solution? On en parle avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, avec Éric Vérague, entrepreneur et ancien président de l'Association pour l'emploi des cadres, avec Sophie Binet également, secrétaire générale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Julien, et puis Laurent de la Clergerie qui est avec nous par téléphone, président de LDLC, c'est une société de vente en ligne d'équipements informatiques qui a décidé, on le rappelle, d'instaurer cette semaine de 4 jours. On va d'ailleurs vous remercier, merci pour vos commentaires et vos explications. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre date avec nous dans un an et pour nous dresser le bilan de cette expérimentation de la semaine de 4 jours?
Ce sera avec plaisir.
Ce sera avec plaisir. Merci infiniment, monsieur, et bon courage à vous, votre activité et à vos salariés. Alors, on parlait de la productivité française, Bernard Vivier. Moi, j'ai ressorti des chiffres. Je suis épaté de voir que les travailleurs français sont les plus productifs d'Europe, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, devant l'Italie, devant les Pays-Bas. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend dans le débat public.
Oui, ils ne sont pas forcément les travailleurs français les plus productifs, mais ils sont dans une très bonne moyenne, parmi les plus productifs. Le débat que vous avez est un débat très intéressant parce qu'il se trouve au carrefour entre le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, et l'illustration de cette entreprise lyonnaise en est un bel exemple, et puis tout ce qui est performance. On ne peut donner du bien-être, des richesses, que quand on a produit la richesse, c'est-à-dire quand la productivité est suffisante. Cette productivité, qu'est-ce que c'est? C'est la création de richesses rapportée au dénominateur avec le nombre d'heures travaillées. Notre histoire économique fait que, naturellement, la productivité dégage des marges de richesse que l'on peut répartir, notamment, tout particulièrement, par la réduction du temps de travail. Et cette productivité, elle est due à quoi? À des efforts de formation, de compétences, de gains de temps, ce sur quoi ce chef d'entreprise lyonnais est en train de miser aussi, de bien-être au travail, d'organisation du travail. En 1998-2000, la réduction du temps de travail a eu une contrepartie, on a cassé la rigidité et on a donné ce qu'on appelait la flexibilité, avec ses avantages et tous les risques liés à la flexibilité du travail. Mais les horaires, c'est l'annualisation.
Bernard Vivier, voilà. C'est le cas des Néerlandais, ils ont une flexibilité très forte et ils peuvent, dans certains cas, travailler 4 jours, 40 heures en 4 jours, mais avoir une semaine complète qui se termine le jeudi soir. Oui. Et ça fonctionne.
Oui, parce qu'à la différence du chef d'entreprise lyonnais, la semaine de 40 heures, par exemple, ça peut être 4 jours que multiplie 10 heures. On fait les 40 heures en 4 jours. Hein. C'est pas notre modèle. Les Allemands valorisent beaucoup les contrats à temps partiel, des Kurzarbeit, comme on dit en Allemagne. Donc c'est un autre modèle. Et puis, le troisième facteur de l'amélioration de la productivité, qui est essentielle, c'est le progrès technique. C'est la machine qui remplace l'homme. Là aussi, avec des grands avantages, ce sont les tâches pénibles qui disparaissent les premières, mais aussi le risque de chômage.
Et puis, c'est un modèle de société différent aussi. Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens. De la CGT. La semaine de 4 jours pourrait avoir des bénéfices sanitaires en réduisant, par exemple, le nombre d'employés présents. Alors, on pense évidemment à ce qui se passe en ce moment avec les contagions liées au Covid. On dit aussi que ça pourrait favoriser, mais j'ai lu ça dans une étude, une redistribution des richesses en encourageant l'exode des urbains qui pourraient aller irriguer les campagnes. C'est un peu le ruissellement géographique.
Oui, tout à fait. Et puis, ça a surtout, de notre point de vue, un grand avantage du point de vue de l'inégalité femmes-hommes. Parce que ce avec quoi il faut rompre, c'est avec le présentéisme qui est aujourd'hui imposé aux cadres. Les cadres, c'est 44h30 de travail en moyenne par semaine. Pour celles et ceux qui sont en forfait jour, c'est encore pire, c'est 46h30. Moi, la question toute simple que je pose, c'est comment peut-on travailler 44h30 par semaine et avoir du temps pour sa famille et pour élever des enfants? La réponse est, on n'a pas de temps. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on impose aux femmes qui veulent avoir une carrière en entreprise, c'est de se conduire et de se comporter comme un homme cadre comme les autres et d'oublier qu'elles peuvent avoir des enfants et d'enterrer leur volonté de pouvoir être mère également. Et qu'aujourd'hui, entre être mère ou faire carrière, on est obligé de choisir. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être mère et père tout en faisant carrière et tout en ayant des responsabilités élevées. Cela signifie qu'il faut réduire le temps de travail, notamment des cadres, qui est beaucoup trop élevé en France, et rompre avec le présentéisme.
Éric Vérague, vous entendez le discours qui est celui de dire vive la qualité de vie, vive le projet sociétal, peut-être à défaut de trop de travail dans l'entreprise et peut-être de trop de croissance ou plus de croissance.
Pour un projet de société ouvert, la question c'est est-ce que c'est aux entreprises de le payer? Et je crois qu'on mélange deux choses, c'est-à-dire qu'on dise que les gens travaillent moins en étant payé moins, ça ne pose de problème à personne. Oui. La question, c'est est-ce qu'on doit demander aux entreprises de financer un projet de société, sachant, et là encore, on ne dit pas tout, si vous regardez comment s'est passée la mise en place des 35 heures à l'hôpital, vous vous apercevez qu'il y a eu des gains de productivité, mais au prix d'une montée colossale de la souffrance des salariés au travail. Je pense aux petites gens, la CGT les oublie. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux agents
hospitaliers. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre de la part du MEDEF ?
Je pense qu'en effet, vous avez oublié les classes populaires. Les classes populaires prennent de plein fouet les augmentations de productivité imposées par la diminution du temps de travail. Et je crois que les classes populaires ont besoin d'être défendues dans ce pays.
Vous avez 30 secondes pour répondre, Sophie Binet.
Non, mais c'est scandaleux. Le bilan des 35 heures a d'abord bénéficié aux femmes qui étaient à temps partiel, qui ont ainsi pu atteindre le temps plein. Effectivement, les 35 heures, ce n'étaient pas les 35 heures de la CGT et elles se sont traduites par une modération salariale que nous avons combattue. Et donc, nous nous battons pour une réduction du temps de travail sans réduction de salaire.
Les classes populaires ont payé cher les 35 heures.
Mais parce que ce n'est pas nous qui les avons mis en place, les 35 heures, et que nous pensons qu'il faut réduire le temps de travail sans réduire les salaires et que ça doit être financé en redistribuant l'argent qui est aujourd'hui capté par le capital et par la distribution d'argent aux actionnaires et aux plus hauts revenus et notamment aux salaires des PDG. C'est de ça dont il faut parler.
Alors, le mot de la fin sera pour vous, Bernard Vivier. Attention à votre réponse, parce que c'est pas facile de conclure une émission comme celle-là. La semaine de 4 jours, utopie ou projet d'avenir ?
Non, c'est plutôt un projet d'avenir, parce que si on installe ce débat actuel, qui est un peu connecté avec le débat sur le télétravail, qui est une autre façon de travailler, de dégager du temps, de repenser les temps au travail, sur le lieu de travail, hors du lieu de travail. Quand sommes-nous ensemble dans une entreprise qui est une communauté humaine ? Quand pouvons-nous dégager du temps pour s'en extraire ? Voilà. Tout cela, c'est important. Ce qui veut dire que le temps de travail, le volume horaire, est un élément important. Et globalement, nous allons vers une réduction du temps de travail sur une ou deux générations. Et puis, nous avons besoin d'organiser toujours des entreprises performantes. Et
merci,
ça, c'est important.
Merci pour cette conclusion, Bernard Vivier. Merci à tous les trois pour ce grand débat du Club des idées. Le temps de travail, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et tiens, restez avec nous, parce que juste après la pause, on s'intéressera dans Le Jour Où, notre séquence où on remonte le temps et on utilise les archives du Club des idées. On vous racontera l'histoire secrète des 35 heures. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.